RCF.
Vous êtes sur RCF le 18-19 en région. Voici Jean-Pierre Benoît.
Bonjour à toutes et à tous, RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes, le 18-19, avec nos invités du mercredi, des invités qui reviennent pour certains d'entre eux, le grand retour d'Hervé Causse qui est avec nous et qui s'assoit, il est en direct. Hervé Causse, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir
merci
les amis.
Merci d'être avec nous, avec bien sûr nos chroniqueurs habituels qui sont là, Robert Roverger, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir.
Et puis Fernand Tavares, toujours fidèle au poste.
Bonsoir.
Il a suivi bien sûr les débats au Parlement de cet après-midi,
il
y en a eu à l'Assemblée au Sénat. Et puis on reverra tout à l'heure des maires, le maire de Launois-sur-Vence, Yannick Lombard. On reparlera bien sûr de l'actualité politique avec vous, Hervé Causse, Fernand, et puis on reviendra également sur tout ce qui se passe un peu en région. On rappelle que c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et qu'il y a une célébration au temple protestant ce soir, boulevard lundi. On aura l'occasion donc d'en reparler. Mais tout de suite, avant de retrouver Fernand, peut-être si Fernand, vous pouvez nous dire, vous avez suivi quand même le président de la République hier à la télévision. On en reparlera avec Hervé Causse.
On en reparlera tout à l'heure.
Tout à l'heure, juste un mot.
Voilà, un mot pour vous dire qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, on a repris les travaux. Première chose, les questions au gouvernement. Alors, j'allais me dire, il y a un nouveau Premier ministre, il aurait pu faire sa déclaration de politique générale avant d'entrer dans le vif du sujet. Eh bien non, il a choisi les questions au gouvernement de l'Assemblée puis celle du Sénat, en indiquant qu'il fera des déclarations de politique générale le 30 janvier et que d'ici le 30 janvier, il allait faire une sorte de tour de France, voir les élus, les syndicats, les économistes, les patrons, etc., pour arriver à la fin du mois avec des choses précises qu'il aura entendues et des décisions qu'il pourra mieux annoncer.
Alors juste d'un mot, mais un très petit mot, parce qu'on va y revenir tout le temps, vous avez suivi la conférence de presse, Hervé Causse,
oui, du président. Quand même, un tout petit peu, oui, mais bon.
Elle était un peu longue, mais.
De notre côté, l'exercice est très long et l'exercice est très nuancé. À la fois, il y a des orientations générales et à la fois, il y a des choses très techniques de telle manière que c'est difficile de se faire une opinion. Il faut y réfléchir et peut-être y réfléchir avec d'autres. Avec des journalistes qui font la synthèse, qui dialoguent un peu pour dire « ah ben oui, mais tel aspect, etc. » Bref, il était légitime qu'il ait une initiative. Hein. Cette initiative me semble quand même globalement un peu compliquée. Quoi. Bon, voilà, c'est un sentiment général. Ça n'obère pas son efficacité, on verra plus tard, hein, dans quelques mois. Mais ça me semble quand même un exercice un peu long, un peu fastidieux, un peu difficile, un peu complexe.
J'ai entendu une expression cet après-midi. Fernand. Est-ce que changer de violon change la partition ? Je vous laisse réfléchir, on en reparlera tout à l'heure.
Vous avez 4 heures. Merci Fernand, merci Hervé. Alors, avant de retrouver bien sûr Robert, alors ça s'est bien passé sur la glace ? Il y avait quand même de la neige ce matin. Pas de problème pour vous, Fernand ?
Bah écoutez,
parce qu'on pense à tous nos auditrices et nos auditeurs.
Si, pour tout le monde d'ailleurs, on s'est réveillé avec du givre, avec de l'eau transformée en glace, et ça a patiné très sérieusement. Première chose à faire, comme tout le monde, si possible, avoir une petite réserve de sel particulier. Moi je l'ai depuis des années, j'ai un grand seau de sel offert par la ville de Reims, et j'arrose mon trottoir parce que, en plus, il y a beaucoup d'écoliers qui passent sur mon trottoir. Je peux vous dire que ce matin, c'était très, très dangereux.
Et vous, Hervé, bien sûr, vous avez
petit. Moi, j'attendais la neige parce qu'il y a des gens qui avaient dit la neige. Du reste, des gens avaient dit la neige pour ce soir. Et en revanche, ce matin, il y a quand même un moment où c'est un peu une mayonnaise par terre.
Oui,
La neige fondue qui est plus glissante peut-être que la neige.
Et le verglas.
Mais
hein.
Ça ne m'a pas empêché d'aller à pied de façon valeureuse chez le coiffeur, comme vous le voyez.
En attendant, on retrouve Robert Roverger. Robert, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors, vous parlez d'un mot cette année, hein, Hervé, c'est comme ça, cette émission, et un mot est choisi. Et notre mot d'aujourd'hui, c'est lequel, Robert ?
Ben, c'est vaccin.
Le mot vaccin, on aurait pu poser aussi la question au président de la République. Alors, le mot vaccin, ça vient d'où, Robert ?
Eh bien, à l'origine, le mot vaccin, à l'origine du mot vaccination, est une des grandes inventions médicales, on peut dire, que tout le monde connaît aujourd'hui et dont chacun bénéficie, au moins dans les pays riches.
Alors, en quelques mots,
Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin exactement ?
Eh bien, un vaccin, tout le monde le sait bien sûr, c'est une substance médicale qui est préparée à partir de germes pathologiques modifiés ou d'une portion de microbes. Alors, en résumé, il s'agit de valoriser les défenses immunitaires en les stimulant par la production d'anticorps afin de développer une immunité protectrice et puis une immunité, bien sûr, durable contre l'agent infectieux.
Alors, ces germes, d'ailleurs, ils pourraient être mortels, hein, et ils deviennent donc efficaces pour combattre les mêmes micro-organismes et virus en activité.
Oui, on peut dire que la vaccination combat le mal par un affaiblissement, puis une disparition du mal.
Alors, quand ce mot vaccin est-il apparu ?
Eh bien, le mot, avec toute sa famille, apparaît en français il y a un peu plus de 200 ans, en 1800 exactement. Alors, une maladie grave sous sa forme humaine, la variole, qui se dit variola en latin, du mot varus qui désignait une infection cutanée. Alors, cette maladie est assez effrayante puisqu'elle peut défigurer et tuer. Et elle s'appelait aussi à l'époque petite vérole, bien qu'elle n'ait rien à voir avec la vraie vérole, la maladie vénérienne, autrement appelée syphilis.
Alors comment est-on passé du mot variole au mot vaccin, alors que ces deux mots n'ont pas d'étymologie commune ?
Bien, la variole a une forme animale qui affecte la vache, qui se dit vacca en latin. Les médecins disaient alors variola vaccina.
Variole de la vache,
voilà,
en quelque sorte.
Voilà, exactement. La variole vaccine, comme disaient les médecins au XVIIIe siècle, en abrégé, on disait la vaccine, reçoit donc alors ce nom masculin, le vaccin, après la géniale découverte d'Edward Jenner, un médecin anglais.
Comment a-t-il pu faire une telle découverte à cette époque, alors que cette maladie faisait des ravages depuis des siècles ?
Bien, tout simplement, si j'ose dire, bien sûr, par une observation. Il avait observé que les vachers, qui avait contracté la variole des bovins, résistait remarquablement aux épidémies de variole humaine.
Alors, quelle conclusion pratique en a-t-il tiré ?
Eh bien, il a eu l'idée géniale, bien sûr, d'inoculer cette vaccine, que l'on dit cowpox en anglais, aux humains à titre préventif. Le vaccin était né.
Alors, c'était, il faut nous rafraîchir la mémoire, Robert Auverger, c'était en quelle année ?
Eh bien, c'était en 1796, exactement. Alors, cela dit, d'ailleurs, dès l'Antiquité, on montait que les personnes frappées une première fois par certaines maladies ne l'étaient pas une seconde fois, mais on en était évidemment resté au constat. Il en était de même jusqu'au XVIIIe siècle, avec toutefois au milieu du XVIe siècle, en 1549 exactement, la découverte d'un document étonnant.
Alors en quoi était-il étonnant ce document ?
Eh bien, ce document indique que dès le Xe siècle, les Chinois pratiquaient ce qu'ils appelaient la variolisation, ce qui était une sorte de vaccination.
Alors comment procédait-il ?
Oula. Il prélevait du pus de bouton sur des malades de la variole, il les faisait sécher, puis il l'insufflait dans les narines des gens, technique qui sauvait peut-être quelques personnes, mais qui entraînait tout de même de nombreux décès, contrairement aux véritables vaccins utilisés par Jenner et ceux qui vont lui succéder.
À ce propos, la découverte de Jenner a ouvert la porte à de nombreux autres vaccins ?
Oui, mais surtout grâce à Louis Pasteur, bien sûr, il suppose que la vaccine pourrait représenter une forme atténuée de la variole, et alors une idée le saisit. Des formes atténuées d'autres microbes ne pourraient-elles pas protéger contre des maladies qu'ils provoquent ? Et c'est ainsi que Pasteur applique sa théorie à des maladies d'animaux d'élevage, par exemple le choléra des poules ou le charbon des ovins et des bovins, avant de travailler sur une maladie à la fois animale et humaine qu'il vaincra, bien sûr, la rage.
Alors, d'autres vaccins, d'autres vaccinations vont suivre,
oh
Robert.
Oui, oh oui, elles sont nombreuses. En 1888, les Français Roux et Hersin mettent au point le vaccin contre la diphtérie qui fera passer le taux de survie chez les enfants de 40 à 75%. 2 ans plus tard, l'équipe du docteur Cor met au point celui contre le tétanos qui sauvera des millions de vies durant la Première Guerre mondiale et bien sûr tant d'autres. Actuellement, rappelons que 11 vaccins sont obligatoires en France.
Alors bien sûr, plus près de nous, on s'en souvient, il y a un peu plus de 3 ans, en 2020, pour lutter contre l'épidémie du Covid-19, on a parlé d'une nouvelle forme de vaccin.
Oui, ce qu'on appelle les vaccins à ARN messager, qui consiste à injecter dans l'organisme non pas le virus, mais des molécules fabriquées en laboratoire qui activent la réponse immunitaire.
Alors, où en est-on quant au vaccin contre le VIH ?
Eh bien, on n'en dispose toujours pas, mais 40 ans après la découverte du virus du sida, L'espoir de le voir disparaître grandit de jour en jour. Côté recherche, par exemple, un vaccin français vient de montrer des résultats très encourageants à suivre.
Merci en tout cas Robert Auverger avec nous tous les mercredis. Nous nous retrouvons bien sûr mercredi prochain. Alors le mot de la semaine prochaine, Robert ?
Libéralisme.
Eh bien, ça encore, c'est un sujet qui va faire parler beaucoup. Une réaction avec vous,
C'est plus d'actualité. Il n'y a plus de différence entre le libéralisme et le communisme, entre la droite et la gauche, j'ai entendu ce matin à la radio.
Ah bon, mais je changerai peut-être de mot, alors je ne sais pas.
Oui, mais bon. Et vous, Fernand, libéralisme, ça vous plaît aussi
Ça me plaît aussi, mais entre la droite et la gauche, ce n'est pas la même cuisine. Et au fur et à mesure du temps, et surtout d'ici, les européennes, ça va ressortir. On va retrouver les clivages anciens. Et malheureusement, des mots et des bras de fer insurmontables.
Merci, on se retrouve dans une poignée de secondes, 18h21. Merci.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Alors on dispose de quelques minutes, une minute peut-être, pour reparler, Fernand, de ce que vous avez simplement suivi à l'Assemblée nationale. Est-ce que... Bon, on ne s'est pas trop disputé cet après-midi, après le discours d'Emmanuel Macron hier, la conférence de presse.
Pour l'instant, juste ce qu'il faut. Mais on n'était pas dans le cadre d'une déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. Le Premier ministre, Gabriel Attal, répondait tout simplement à la séance de questions au gouvernement hier à l'Assemblée nationale, aujourd'hui encore 45 minutes à la même Assemblée nationale, et puis pendant 2 heures au Sénat. Sur la forme, il y a quand même quelque chose qui me rappelle un autre Premier ministre en son temps, qui était très jeune, c'était Laurent Fabius. Laurent Fabius répondait à ses députés, comme l'a fait Gabriel Attal, sans aucune note. Tout dans la tête et une analyse vraiment très précise. Gabriel Attal fait la même chose. La seule différence, c'est qu'il a annoncé qu'il ne faisait pas sa déclaration de politique générale maintenant, parce que d'ici le 30 janvier, date à laquelle il le fera, il compte aller dans les régions, les départements, les communes, rencontrer les élus de terrain, rencontrer les associations, rencontrer les forces économiques et sociales, avant d'amener tout ça au Parlement.
Merci Fernand. On se retrouve avec Hervé Causse, Fernand Tavares, après le maire de L'Aunois, après le journal régional avec 2 titres, aux alentours de 18h37. Merci d'être avec nous. Et c'est justement le maire de L'Aunois que l'on retrouve tout de suite, Jean-Nic Lombard.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai, Jean-Nic Lombard, vous êtes maire depuis peu de temps, mais vous avez toujours été dans le conseil municipal.
Voilà, donc j'ai été élu aux dernières élections de 2020 comme maire, mais j'ai fait un mandat en tant qu'adjoint au maire lorsque j'ai pris ma retraite en 2013.
Alors combien d'élus dans votre équipe municipale, votre équipe communale, Jean-Luc Lombard ?
La communale se compose, comme c'est un village de 700 habitants, hein, de 15 élus. Hein, de 15 élus, et nous sommes rattachés maintenant à la communauté de communes de Poitéron.
Alors vous avez une volonté quand même pour votre commune dans le monde rural à quelques kilomètres de Charleville-Mézières. Vous voulez qu'elle soit attractive ?
Oui, bien sûr. Alors notre volonté est de faire vivre notre commune en la rendant naturellement attractive, en proposant des activités par le monde associatif qui s'est créé, qui est très actif actuellement, hein, avec les clubs de football, des différentes associations qui s'occupent de la chorale, du dessin, de la marche, du bricolage, de la couture... Bientôt des réunions pour les personnes isolées, des voyages. Et en plus, nous avons la chance d'avoir l'office de tourisme des Crêtes Préardonnaises, hein, donc avec les activités de l'office de tourisme qui est implanté à L'Aunois-sur-Vence, ainsi que l'office d'animation des Crêtes Préardonnaises pour les animations aussi dans la commune et dans les communes environnantes.
Alors pouvez-vous nous présenter cette commune de L'Aunois-sur-Vence ? Combien d'habitants aujourd'hui ? Donc vous l'avez dit, un peu plus de 700 en gros.
Voilà, c'est ça. En gros, nous avons 700 habitants, hein, des Launoisiens et des Launoisiennes. Hein. Nous nous situons à peu près à mi-chemin entre Rethel et Charleville-Mézières et nous sommes à 5 km de l'autoroute A34.
Alors justement, quand on est sur l'autoroute en ce moment, A34, il y a des panneaux qui nous mettent en évidence Launois-sur-Vence, parce que le tourisme, c'est important pour vous.
Oui, bien sûr. C'est une commune typiquement rurale, on est axé en partie sur le tourisme, hein, étant donné qu'on a la chance d'avoir dans notre commune, qui est labellisée village étape, grâce surtout à son église du XIIe siècle, et le relais au poste aux chevaux, qui date du XVIIe siècle. C'était l'époque où les diligences s'y arrêtaient et les voyageurs s'y restauraient. Et l'intérieur, c'est une véritable cathédrale de poutre. Le bâtiment est l'œuvre des compagnons charpentiers ardennais de l'époque. Actuellement, il est encore intact. Repris par la communauté de communes, il a été restauré. Il accueille à peu près 60 000 visiteurs par an, relevés par l'Office de tourisme, et il est inscrit au monument historique.
Alors il y a, pour y aller de temps en temps, des manifestations, il y a même un centre équestre à l'intérieur, évidemment.
Tout à fait. Alors au départ, il y a eu un centre équestre qui a été créé, dédié aux chevaux ardennais. Maintenant, ils proposent des balades en calèche, ils forment des personnes au métier, ayant au trait du cheval ardennais. Ce relais maintenant est régulièrement occupé et il accueille diverses manifestations, dont on a toujours le fameux marché des antiquaires qui a été créé depuis X années, hein, tous les mois, le marché paysan chaque mois, diverses manifestations culturelles, gastronomiques. La prochaine, fin novembre ou début décembre, on aura le relais du Père Noël.
Ça veut dire que vous êtes toujours branché sur ce qui se passe, sur l'actualité, sur les événements. Et j'ai souvenir tout de même qu'il y a une petite pancarte dans ce relais. Et c'est qu'on met le temps qu'on mettait pour le courrier de venir de Paris et d'arriver à l'Aunois. C'était le relais des postes à cheval. Ça, c'est quand même assez impressionnant de voir cette pancarte.
Oui, tout à fait. C'est vrai que le relais, il n'y en a plus que deux en France, donc c'est un des deux qui reste en France, et le nôtre est parfaitement intact. Ce relais, effectivement, servait de relais de poste, hein. Il y avait la malle au poste, et il rentrait par l'entrée principale qui se trouve côté route, hein, l'accès principal. Et les gens ont changé les chevaux, ils repartaient, c'était une route qui repartait après pour Anvers, donc vous voyez, ça allait jusqu'à assez loin, et c'était la route la plus pratiquée. Donc l'Aunois est devenu un carrefour aussi de commerce dans le temps.
Alors, c'est vrai, Jeannick Lombard, vous qui êtes maire de l'Aunois-sur-Vence, vous mettez l'accent sur le tourisme. C'est vrai aussi que j'ai entendu dire, je l'ai déjà vu et je m'y suis même arrêté, à la brasserie Ardouen, qui est fabriquée, cette bière ardennaise à l'Aunois.
Oui, nous avons également dans la brasserie Ardouen, mais bon, maintenant, qui est très renommée, puisque ça va au-delà de nos frontières, hein, donc elle est très appréciée, elle a des primes. Je sais que l'année dernière, ils ont même eu un prix aux États-Unis. Donc voilà, c'est une bière qui est très, 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 très appréciée. Bon, pour nous, c'est une vitrine.
Absolument. Justement, avec votre équipe communale, votre conseil municipal, vous avez entrepris sans doute des travaux pour améliorer la vie du village à l'Aunois en ce moment.
Oui. Actuellement, si vous passez dans le village, vous allez voir qu'il y a des travaux dans toutes les rues. Depuis un an, la commune, avec les communautés de communes des Crêtes préartennaises, nous avons attaqué l'assainissement. L'assainissement qui était une nécessité. Donc l'assainissement vient d'être mis dans tout le village, donc il se termine. Il se termine actuellement. Et là, pour ma part, je fais la réflexion, enfin la commune, on fait la réflexion des trottoirs avec, dans la foulée, une création d'une aire de camping-car. Hein, puisque c'est pas moins de 600 camping-caristes par an, hein, qui passent dans le village. Comme il y a déjà une station de vidange existante et puis qui peuvent, voilà, à proximité,
ça, c'est formidable.
Voilà, juste à côté.
Il faut dire que vous êtes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, très proche de la 34. Il suffit de sortir à Voynic et on est très très proche de l'Aunois. Mais j'ai entendu dire aussi qu'il y a un groupe scolaire qui était entièrement rénové en ce moment.
Oui. Nous avons rénové le groupe scolaire qui porte le nom de Jules Marie. Hein, c'était l'écrivain dramaturge, hein, qui est né en 1851 à L'Aunois-sur-Vence, justement. Le groupe scolaire regroupe 120 enfants, dont une partie viennent des villages avoisinants. Hein, il était entièrement rénové pour pouvoir offrir à mes élèves, aux enfants de la maternelle au CM2, des conditions de aussi concernant enseignants, des conditions de travail très satisfaisante, puisque nous avons créé des classes numériques. Toutes les classes sont équipées de TBI.
D'ordinateurs.
Voilà. Et puis même maintenant, ils travaillent tous sur des tableaux interactifs, hein, ce qui est quand même pas mal. Une cantine qui était maison avec des produits locaux, puisque nous avons la chance d'avoir
des produits, oui, bien sûr.
D'avoir des produits locaux.
Et puis une garderie, je crois, hein.
Voilà, on a une garderie avec une amplitude horaire qui part du matin de très bonne heure jusqu'au soir, jusqu'à 19h, qui permet aux parents qui travaillent sur Charleville ou ailleurs de nous confier leurs enfants pour la journée.
Dans les secondes qui nous restent, c'est la question traditionnelle que je pose à tous les maires. Est-ce que vous êtes un maire heureux? Qu'est-ce que c'est qu'être maire pour vous, Jeannick Lombard?
Je pas vous dire que je ne suis pas heureux, parce que j'aime ce que je fais. Donc être maire, pour moi, c'est avant tout une notion de service public, hein, rendre le service, se dévouer pour faire vivre une commune tout en ayant une gestion saine et raisonnable, hein, malgré les difficultés des dernières années que nous avons eues avec le Covid et puis tout ça. Voilà, sans prétention, voilà, j'ai humblement...
votre contribution.
Voilà, j'apporte ma contribution et puis surtout, j'ai à répondre de mes actes à mes administrés. Voilà.
Merci en tout cas, Jean-Nic Lombard, d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes le maire de Launois-sur-Vence dans le département des Ardennes. Et puis, à très bientôt sur RCF.
Ah ben, je vous remercie, Jean-Pierre.
Et oui, nous sommes à l'antenne et nous étions en train de discuter entre nous avec Hervé Causse, avec Fernand Tavares, puisqu'il est pratiquement 18h31. C'est l'heure du journal régional. Météo, ce fut une journée difficile dans la Marne et les Ardennes, en particulier ce matin. Le dégel a eu lieu en cours de matinée et dans l'après-midi, il devrait se poursuivre. Mais certains éléments donnés par Météo France ce soir disent que la neige pourrait peut-être revenir également, car les températures demain sont pratiquement les mêmes que celles d'aujourd'hui. Assemblée nationale, le débat repart après la conférence de presse du président de la République. On entendra tout à l'heure, donc comme le mercredi, Fernand Tavares, Hervé Causse qui nous en parleront. Et puis nous reviendrons sur la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, protestants et catholiques vont se retrouver ce soir à 20h au temple protestant du boulevard Lundy. Et puis le centre hospitalier, le groupe hospitalier Sud-Ardennes bénéficie de fonds européens depuis 2023. Il a pu investir sur son site de Vouziers. Le matériel est prêt à être installé. Les travaux vont démarrer. On retrouvera tout à l'heure Alexis Claudretz nous en parler. Et puis l'éolien est en aide aux pertes de chaleur dans le Vitria. La société Baïva, d'origine allemande, lance 3 projets éoliens.
RCF, le journal, Jean-Pierre Benoît.
Le groupe hospitalier Sud-Ardennes a bénéficié de fonds européens en 2023. 1 200 000 euros de fonds européens. Alexis est avec nous.
Effectivement, Jean-Pierre, fin décembre, il fallait boucler les comptes pour envoyer les factures à temps. Le GHSA, qui regroupe les hôpitaux de Rethel et Vouziers, a pris la décision d'investir les fonds européens sur le second site mentionné, un grand plan d'investissement placé sous le signe de la modernité concernant le matériel, comme le souligne la directrice du groupe hospitalier Sud-Ardennes, Corinne Roux.
Nous allons restaurer le matériel d'imagerie, que ce soit pour réaliser des examens radiologiques conventionnels, mais également pour développer la prévention donc des cancers chez la femme, puisque nous allons obtenir un mammographe et un échographe. Donc oui, la volonté, c'est de diversifier l'offre de soins sur le territoire du Vosginois et bien évidemment d'adapter, d'aménager les locaux par voie de conséquence, hein, puisqu'il va y avoir des aides de l'agence régionale à hauteur de 300 000 euros pour justement restaurer les espaces de travail, que ce soit l'imagerie ou aujourd'hui ce qu'on appelle le centre de soins non programmé, puisque nous avons transformé les urgences en centre de soins non programmé.
Tout l'équipement matériel est donc acheté et livré sur le site de Vouziers, mais le matériel n'est pas encore opérationnel puisqu'avant de l'installer, des travaux doivent être effectués.
Ça va être une restauration des murs, des espaces de travail plus ergonomiques avec plus d'espace, avec des ouvertures aussi d'accès aux soins pour les personnes à mobilité réduite, une meilleure isolation puisqu'on va changer les menuiseries. On va améliorer la signalétique. Et en dehors des 300 000 euros autorisés par l'agence régionale, on a aussi une subvention de leur part pour aménager un parking.
Les consultations d'entreprise sont terminées. Les travaux devraient débuter fin mars, début avril pour une livraison finale avant l'été.
À noter que ces investissements arrivent dans la continuité de premières rénovations importantes déjà effectuées sur le site de Rethel depuis quelques mois.
L'actualité du côté de Vitry-le-François avec RCF Cœur de Champagne, c'est avec une société, la société Baïva, d'origine allemande, dont le siège social est à Paris, qui lance 3 projets d'éolien dans le Vitria, et plus particulièrement sur le territoire de la commune de Vitry, Champagne et d'Air, avec des communes avoisinantes qui sont toutes concernées. Et pour accompagner son installation, la société Baïwa s'est associée au Comal Solia 51 pour aider à la rénovation énergétique des logements voisins des projets éoliens de la Haute-Voie. Maxime Frémont-Marcilly est responsable développement éolien chez Baïwa.
Dans le Vitria et plus largement dans la Marne, on propose un accompagnement à la rénovation énergétique des logements. On a 3 projets en cours de développement dans la commune Vitry, Champagne et d'Air. Et l'idée, c'est qu'on utilise l'arrivée de ces projets, qui sont pour l'instant encore au stade de l'instruction et des études, pour que les gens puissent rénover ou en tout cas commencer à anticiper la rénovation de leur logement.
Vous vous êtes associé avec une association, c'est clair de le dire, dont c'est le but ?
Oui, exactement. En matière de rénovation énergétique, il y a déjà beaucoup d'aides. Il y a un grand éventail d'aides possibles et un grand nombre d'opérateurs. On s'est appuyé sur un opérateur local reconnu, le Comal Solia 51, qui aide ces personnes à accéder à ces aides. Et donc l'idée, c'est pas de se substituer à la fois à la puissance publique et aux outils qui existent déjà, mais plutôt d'apporter notre pierre à l'édifice en créant le lien, ce petit trait d'union qui peut manquer et qui peut être parfois un peu financier pour des gens qui ne réalisent pas les travaux parce que justement il manque quelques euros pour boucler un dossier d'aide à la rénovation.
Donc votre société apporterait les euros manquants?
On apporte à la fois des euros manquants mais aussi on profite de la dynamique. L'idée, c'est de sensibiliser les populations par des balades thermographiques. On va aller sur le territoire avec les caméras thermiques voir où sont les déperditions de chaleur dans les logements, et là on peut le faire à plusieurs dizaines d'habitants. Ça va commencer dès cet hiver puisqu'il faut profiter que les températures soient relativement fraîches à l'extérieur pour bien que ça marche. Donc à Soulanges, Arzillères, Oisy-sur-Marne et une maison en Champagne, oui.
Voilà, c'était Maxime Frémont-Marcilly au téléphone avec Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Renseignements complémentaires auprès du Comal Solia 51 ou des mairies concernées par le projet éolien de la Haute-Voie. On le disait en titre, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes. Un certain nombre de rencontres ont lieu et en particulier donc ce soir, Boulevard Lundy, au Temple protestant à 20h. Rappelons également que demain à 19h, à l'ICP, l'Institut Campus catholique de Paris, campus de Reims, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, dans le cadre d'une série de conférences culture et religion, évoquera la question de la formation. Pourquoi dans l'Église faut-il se former ? Un rendez-vous demain sur le site de l'ICP à partir de 19h. Et puis la météo, on le disait en titre tout à l'heure, pratiquement les mêmes températures qu'aujourd'hui, la pluie qui devrait succéder à la neige, mais la neige peut réapparaître aussi puisque les températures sont au voisinage de zéro, donc il suffit d'un degré ou plus ou moins pour que ça devienne du verglas ou que ça soit simplement de la pluie. Donc la prudence est toujours de rigueur. Il est 18h38, dans un instant, la suite du magazine avec nos chroniqueurs Fernand Tavares et Hervé Cause, dont c'est le grand retour.
Le 18-19 sur RCF.
Alors évidemment, à cette heure-ci, hier, on parlait de la conférence de presse du président de la République. Elle a eu lieu hier soir. Vous en avez dit 2 mots, Fernand. On résume. Et puis, peut-être des réactions également avec vous, Hervé, sur la composition de ce gouvernement après le remaniement. Fernand, vous résumez un peu ce que vous avez ressenti lors de ces 2h30 de conférence de presse du président de la République.
De toute façon, c'est clair, net et précis. Son gouvernement était rassemblé à ses pieds au grand complet. Le Premier ministre, évidemment, en tête. Emmanuel Macron est apparu comme le pilote d'un très bel avion. Je veux dire, pas dire le Concorde, même s'il n'existe plus, mais au moins cela. Tout le monde a bien compris que c'était lui qui établissait, comment on dit, la feuille de route.
Alors,
qui donnait des pistes, ça, c'est clair, net et précis.
Mais sur le plan du décor, je vous interromps 20 secondes.
Les ministres, quand, en l'écoutant, y compris le Premier ministre, ont tous opiné du chef et de la tête, si j'ose dire. Et donc, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ils sont tous vraiment au garde à vous, prêt à appliquer à 100% les orientations et les décisions du président de la République. Ça, c'est
clair. C'était un petit peu, j'allais dire, original, parce que les conférences de presse ne se passaient jamais comme ça. Il y en avait très peu avec Emmanuel Macron. Mais ça donnait, je parle au niveau du décor, une ambiance qui ressemblait à celle du général de Gaulle, vous savez, quand il avait tous ses ministres rassemblés autour de lui, dans la grande fête de l'Élysée, avec un bleu, blanc, rouge, parce que d'habitude, maintenant, les conférences de presse, c'est plutôt des interviews avec quelques journalistes, ou ce sont des produits, vous qui connaissez bien la presse parlementaire.
Il n'y avait pas de la couleur à l'époque, quand même.
Que là, on est quand même dans un contexte différent. Le président de la République a nommé un Premier ministre. Ce Premier ministre, d'habitude, va devant l'Assemblée nationale engager la responsabilité de son gouvernement ou prononcer son discours de politique générale pour dire quelles sont les orientations qu'il prend, quelles sont les décisions qu'il va appliquer en matière d'énergie, en matière d'école, etc. Et là, ça n'est pas du tout le cas. C'est comme si le président de la République faisait une sorte de déclaration de politique générale très élargie, problèmes nationaux, problèmes internationaux, etc. Et le Premier ministre, lui, qui aurait dû monter au créneau auprès des parlementaires, eh bien, il s'est mis en attente, mais en attente relativement longue, parce qu'il a annoncé aujourd'hui qu'il ferait sa déclaration de politique générale, non pas dans les 48 heures, ni dans les 3 jours, mais le 30 janvier, parce qu'il a appliqué une méthode qui n'est pas nouvelle, mais sa méthode à lui, c'est d'abord d'aller écouter sur le terrain les élus, les maires, les présidents de département, les syndicats, les forces vives, les économistes, les patrons, etc., de rassembler un petit peu toutes les préoccupations des uns et des autres, de mettre tout ça noir sur blanc et de dire voilà aux parlementaires comment je vais opérer maintenant.
Votre réaction, Hervé Causse, et puis peut-être sur le gouvernement également.
J'écoute mon ami Fernand avec intérêt, mais il y a quand même un gros bug dans ce que tu décris, ami, qui n'est pas lié à ce que tu dis, mais qui est lié au processus. On a eu hier le discours, et on va voir demain avec les Français, autrement dit, on va rechercher la méthode. C'est pas très logique. La logique, ce serait je fais un tour de France.
Mais
si
c'est ce que
besoin.
Fait Gabriel Attal. C'est le président de la République qui a coupé l'herbe sous le pied, en quelque sorte.
Ah oui, d'accord. Mais alors, mais si vous voulez, 15 jours pour aller voir les Français, ça donne donc l'impression que ce jeune qui est jeune et qui donc n'a pas de réflexe, excusez-moi, de vieux con et qui est prêt à tout entendre, etc., et a besoin encore d'entendre. Donc il n'est pas connecté au terrain. Donc il va sur le terrain. Oui, les politiques n'ont que ça à dire. On est sur le terrain. Au moment où le type est nommé, il est obligé de retourner sur le terrain alors qu'il n'a jamais fait que de la politique dans sa vie. Donc il y a un bug.
Le terrain lui est favorable en ce moment. Regardez tout ce qui se passe au niveau dans le Nord-Pas-de-Calais, au niveau des inondations, tout ce qui se passe au niveau de l'insécurité, de l'attaque même des élus. Il y a de quoi faire sur le terrain.
Il y a toujours des morts et des inondations quelque part. Et on peut toujours faire quelque chose. Le seul truc là, c'est qu'il s'agit de lancer un gouvernement. Le président n'a pas fait un remaniement. Il a fait les journalistes confondent remaniement et changement de gouvernement. Il n'y a pas eu de remaniement. Il y a eu un changement de gouvernement. Il y a eu un changement de Premier ministre. On a sorti quand même quelqu'un qui a tenu le pays, Madame Borne. Merci Madame Borne. Alors certains la détestent parce qu'elle a fait plein de 49-3, mais elle n'a pas de majorité. L'autre n'aura pas de majorité non plus. Merci Madame Borne, grande technicienne, grande technocrate, polytechnicienne. Merci Madame, voilà une femme qui a tenu le pays.
Bon, et le 49-3, on l'a débarqué. Il ne faut pas oublier que les 49-3 sont autorisés par le Conseil des ministres, en présence du président de la République.
Oui, bien sûr.
Donc, ce n'est pas une décision personnelle de Madame.
Bien entendu, c'est une décision collective et de l'exécutif.
Alors, dans ce gouvernement, vous n'étiez pas là la semaine dernière, Hervé. Donc, vous, comment vous voyez, Gabriel Attal, on en a déjà parlé, mais Monsieur Darmanin, il a quand même, en tant que ministre de l'Intérieur, à assurer la sécurité, par exemple, des Jeux Olympiques qui vont être un rendez-vous mondial pour la France.
Avant Darmanin, je finis sur l'idée gouvernement. Ce qu'on a vu hier soir, des ministres qui disent oui à tout, ce qui est normal. Ils ne vont pas dire non à ce que dit le président de la République. Mais on voit que le président a sorti un programme et le programme du Premier ministre. Donc, qui est le Premier ministre ? C'est Emmanuel Macron. Qui est ministre ? Le seul qui soit ministre, c'est finalement
le nouveau Premier ministre, c'est Attal. Et les autres sont des exécutants, des secrétaires d'État. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision de la Constitution. Le président ne doit pas diriger. Le président doit nommer un Premier ministre qui fait les choses. Et ça permet, ça, de donner au président de la hauteur.
Mais depuis le quinquennat, il y a eu une habitude.
Mais le quinquennat n'a pas changé le fait que le président est élu et que l'article 20 de la Constitution, c'est le gouvernement, c'est le Premier ministre avec le gouvernement qui dirige la politique de la France. Et ça, je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il n'y a pas de fusible entre le peuple, finalement, et Macron, parce que tout le monde voit que ce sont des exécutants. Même les gens qui ont un nom, Dati, on voit que ce sont des exécutants. Et ce matin, elle a dit qu'elle était candidate à la mairie de Paris. On voit ses priorités culturelles, quoi.
Oui, mais regardez, sous la présidence de François Mitterrand, qui a été un événement politique considérable en 1981, dans les années qui ont suivi, sous les deux septennats, François Mitterrand donnait la ligne politique à appliquer. Et les premiers ministres, tous les premiers ministres, que ce soit Pierre Mauroy, Laurent Fabius et bien d'autres après, y compris Lionel Jospin plus tard, mais il était simplement ministre, appliquaient les décisions ou les orientations définies en Conseil des ministres par le président de la République et annoncées peut-être même auparavant. Alors, c'est peut-être pas dans l'esprit de la Constitution, mais ça a toujours été plus ou moins comme ça. Un président de la République à temps plein, c'est pas un président de la République comme au Portugal, par exemple.
Fernand, jamais François Mitterrand a dit à 5 minutes d'un début de discours, il va falloir créer une heure de cours de théâtre en cinquième ou en quatrième. Enfin, créer une heure de cours de théâtre. Moi, je veux bien que le président commence par l'éducation nationale. Parce qu'effectivement, si on règle les problèmes d'éducation nationale et si on éduque les gens, les prisons seront moins pleines, il y aura moins de chômeurs, on réglera plein de choses, il y aura moins d'imbéciles qui vont aux urgences quand ils n'ont pas besoin. Moi, je veux bien ça. Mais quand même, une heure de théâtre. Et dans le même temps, il va vous dire, il faut responsabiliser les chefs d'établissement de l'éducation nationale. Ben, responsabiliser, ben, celui qui estime qu'il a un public pour faire une heure de théâtre, il le fait. Celui qui estime qu'il n'a pas le public et qu'il faut faire une heure de sport de plus, il le fait, quoi. C'est pas du niveau président de la République. C'est une erreur stratégique
majeure.
Alors,
on peut regarder quand même, puisque je vois que vous êtes assez critique, Hervé, sur cette prestation du président de la République.
C'est pas la prestation, c'est la méthode de gouvernement.
L'esprit. Alors, on s'aperçoit quand même, parce qu'on est quand même en Champagne-Ardennes, que, et ça n'était pas arrivé depuis quand même pas mal d'années, qu'on a en particulier Catherine Vautrin qui a un gros ministère, ministre du Travail, ministre de la Santé et de la Cohésion Sociale ou des Solidarités. Ça veut dire quand même que, bon, ben là, on a, nous, si on est peut-être fiers d'être champenois, comme gaulois, comme etc., on a une ministre au gouvernement, Fernand.
Oui, ben ça n'est pas en quelque sorte une surprise énorme dans la mesure où, sur son curriculum vitae, Catherine Vautrin a déjà été plusieurs fois parlementaire, plusieurs fois vice-présidente de l'Assemblée nationale, plusieurs fois secrétaire d'État et ministre délégué également, donc, et en même temps sur le terrain ici, des responsabilités locales et départementales. Ça, on est d'accord. Maintenant, est-ce que c'était prévisible? On l'a un petit peu évoqué la semaine dernière. Est-ce que derrière tout cela, il n'y a pas le souffle de Nicolas Sarkozy dans l'oreille du président Macron? Tout le monde le dit, peut-être. Peut-être que non. Et puis aussi, la nécessité d'avoir des femmes dans ce gouvernement. C'est pas encore une parité totale. Il fallait quand même quelqu'un qui représente, disons, le sérieux de la chose. Catherine Vautrin, c'est pas quelqu'un qui saute au plafond. C'est une femme de dossier. Moi, je vais vous dire une chose. Lorsqu'elle était à l'Assemblée nationale, vice-présidente, je me suis dit un jour ou l'autre, ça sera la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Manque de chance, elle a été battue aux élections législatives.
En 2017.
Oui, parce que les macronistes lui ont préféré une autre personne. Ça l'a beaucoup affectée. Alors, je ne sais pas si un renvoi d'ascenseur. Elle a failli être Premier ministre aussi, bon, à la place d'Elisabeth Borne. Ça a failli se faire à un poil près. Alors, comme je dis, c'est peut-être un renvoi d'ascenseur, mais c'est vrai que le portefeuille qu'elle a, trois gros ministères,
c'est
quand
même
énorme, c'est une sorte de ministère d'État. J'espère pour elle qu'elle ne sera pas seule, qu'il y aura des ministres délégués.
Ils vont être nommés.
Alors, on a dit un mot des femmes. Le président a quand même débarqué Elisabeth Borne. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde, je fais abstraction de Catherine Vautrin, félicitations républicaines pour la Champagne, elle est nommée très bien. Si je regarde Dati, Vautrin, Dati, Oudéa Castéra,
je me fais quand même beaucoup de soucis pour la représentation féminine. Parce que Dati, ce qui l'intéresse, c'est la mairie. Et effectivement, la mairie, quand vous y êtes à la mairie de Paris, vous êtes plus fort qu'un ministre. Vous avez toute une administration, vous rayonnez dans le monde
entier. Et puis c'est un objectif qu'elle a toujours eu. Hein.
Oui, d'accord. Mais enfin bon, là, elle a accepté d'être ministre. Donc la culture, je crois pas que ça marchera. Oudéa Castéra.
Mais vous êtes dur, Hervé, là, en
mais
début.
Non, mais
de...
je crois pas.
Mais en début de gouvernement,
vous avez raison. Le président croit l'inverse. Chacun croit ce qu'il veut. Mais la fille est déjà candidate à la mairie de Paris. C'est le lendemain de sa nomination.
Et
écoutez,
Dati,
les Français sont stupéfaits.
Et Rachida Dati sait très bien ce qui l'attend au tournant. Et elle sait très bien ce que pensent les uns et les autres, y compris dans le monde politique ou même sur le terrain, de savoir qu'elle ne sera pas compétente en matière culturelle.
Ah, en plus,
c'est quand même. Non,
c'est pas moi qui l'ai dit, là.
Non, non, mais. Elle sait ce qu'on va dire d'elle. Je ne dis pas qu'elle ne sera incompétente. Simplement, ce qui est observable quand même, et ça, ce n'est pas forcément le petit bout de la lorgnette, mais avec ce qui se passe dans les banlieues. Rachida Dati, à l'origine, ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé à la force du poignet comme cela. Elle a travaillé sur le terrain. C'est une, je ne dis pas que c'est une fille d'immigrée, mais pas loin. Elle a fait l'école de la magistrature de Bordeaux. C'est une magistrate. Elle a été garde des Sceaux, ministre de la Justice. Elle a une façon d'agir, un caractère vraiment très particulier. Je l'ai vu à l'Assemblée nationale lorsqu'elle était garde des Sceaux. C'est vrai, elle n'a pas son mouchoir dans la poche. Elle a son franc-parler. Elle n'arrivera pas à se taire. C'est pour le meilleur et pour le pire. Alors, vous allez me dire, si Macron l'a choisi, c'est peut-être pour un peu... être différente dans un gouvernement comme celui-là.
Non mais
il veut des gens qui ne soient pas forcément béni oui, qui
oui,
soient pas qui
une...
soient pas neutres, qui soient pas linéaires, donc c'est pas exclu.
C'est une méthode que Sarkozy a déployée en dévergondant des gens, en faisant venir des gens de la gauche, etc. Et Sarkozy n'a pas été réélu. Et Sarkozy a quand même eu une fin de mandat difficile. Faut
oui,
pas
sauf
l'oublier.
Qu'Emmanuel Macron c'est... n'a pas besoin d'être réélu puisqu'il se représente.
Non, mais
pas.
D'accord. Mais l'action de la France, donc Dati, ça ne marchera pas à la culture,
mais dans
probablement
les ministres
pas.
De la culture.
Oudéa Castéra,
oui.
Mais c'est un sketch pas possible. La fille est à contre-emploi. Si vous voulez. Elle est à contre-emploi. Mais Catherine Vautrin également, avec l'histoire de la santé, du champagne, on lui reproche sa bannière sur Internet, disant vous avez été député des viticulteurs, là vous êtes ministre. Et puis l'histoire du mariage gay, sur lequel elle a changé. Elle dit j'ai pas de difficulté avec ça.
Elle
le reconnaît.
On a
enfin,
le droit de changer.
Il y a quand même des catholiques qui ont voté pour elle pendant 25 ans, quoi. Si vous voulez.
Il n'y a que Rubio Iglesias qui dit je n'ai pas changé.
Oui, mais les femmes au gouvernement me semblent être en position déjà délicate.
Alors tout ça, on va voir. Hein,
et donc le gouvernement est un gouvernement déjà en difficulté, avec un Darmenin, on y revient, qui à mon avis a voulu montrer qu'après l'échec de la loi immigration, il peut être renommé, très bien, bravo à lui, il est renommé, mais qui à mon avis a des ambitions présidentielles, à tort ou à raison, et qui... profitera de la première occasion pour cette fois sortir du gouvernement et pouvoir faire ce qu'il veut. Bruno Le Maire, ministre émérite de l'économie, mais que peut-il apporter aujourd'hui à la France après tant d'années, 8 années Donc c'est un gouvernement faussement jeune et faussement renouvelé, je crois.
Alors,
et
moi,
on risque de s'en rendre compte, à mon avis, je vous dis, avant 9 mois.
Bon, il n'y a pas que des nouveautés au sein de ce gouvernement. Vous venez de citer quelques ministres qui ont tout de même de la bouteille sur le plan économique, sur le plan de la gestion. Aujourd'hui, effectivement, il y a par exemple une grosse pierre dans le jardin du ministre de l'économie, c'est le prix de l'énergie. J'ai entendu M. Le Maire à l'Assemblée nationale, je l'ai entendu au Sénat également cet après-midi, assumer ce choix. Il a dit « on a maintenu un bouclier pour limiter les hausses de l'énergie, électricité et gaz pendant le Covid, ce qui est vrai. Aujourd'hui, on ne peut plus. Donc, il faut augmenter de 10%. En attendant quoi? Alors ça, c'est dur. En attendant qu'on ait à nouveau des centrales nucléaires qui arrivent, etc. Et d'autre part, ce qui est remis à la une, notamment aussi par le président de la République, c'est que, en l'état actuel des choses, ce qui traîne énormément et ce qui pose une grosse difficulté, c'est le combat Russie-Ukraine. C'est un autre problème. Et là, c'est dans l'ordre des compétences, évidemment, du président de la République. La politique internationale, c'est son domaine réservé. Ce que vous avez entendu hier, ce que j'ai entendu tout de même, c'est quand même une phrase très forte d'Emmanuel Macron à propos de l'Ukraine et de la Russie. Il a quand même déclaré à la France entière, il ne faut absolument pas que la Russie gagne la bataille de l'Ukraine.
Et puis il faut rappeler quand même, Fernand, parce qu'il faudrait quand même le mentionner, il a évoqué Gaza, la Palestine, et qu'il y a une journée, on se disait, mais
le
il y a
7 février.
Voilà, une journée le 7 février de commémoration pour le souvenir de tous les otages qui ont été libérés, mais aussi ceux qui sont, les Français qui sont morts surtout.
Alors cette journée de commémoration va rassembler, au moins une fois par rapport à tout ce qui se passe, c'est sûr que ça rassemblera tout le monde, la droite et la gauche, c'est pas une affaire politique. Donc là-dessus, c'est clair. Maintenant, le problème de Gaza, il est éternel. Dans les jours, dans les mois qui viennent, il faut absolument que la France continue de venir ou d'aller au secours des Palestiniens, au secours de Gaza, de continuer à envoyer des hôpitaux par le bateau.
L'aide humanitaire.
De l'aide humanitaire, ça, c'est un fait. Et d'un autre côté, c'est pas simple, parce que les Israéliens qui ont été victimes du Hamas, ont besoin, eux aussi, d'être soutenus. Ouais. Alors, quelle est la solution? Il n'y en a pas. Je veux dire que là, alors, il y a quand même aussi... Alors, ça n'a rien à voir pendant qu'on a encore une petite minute. C'est qu'il y a une question qui a été posée à Emmanuel Macron hier sur Trump. Et sur Trump, j'ai entendu hier le président de la République française y aller sur la pointe des pieds en disant « Oui, moi, j'ai connu M. Trump ». Président des États-Unis. D'ailleurs, il a été invité un 14 juillet. Le premier 14 juillet, Trump est venu avec sa femme. Et je l'ai trouvé très modéré, comme s'il était en attente et comme s'il s'attendait peut-être à la surprise Trump la fois prochaine. Et Emmanuel Macron a dit, sur certaines choses, on est tombé d'accord. Et d'autre part, il ne faut pas se mettre à dos comme ça, le futur président des États-Unis, si tant est que ce soit à nouveau lui, parce que, il ne faut pas oublier que l'OTAN, on en a besoin. Et puis les États-Unis, on risque d'en avoir besoin peut-être aussi.
On aura l'occasion d'en reparler. Hervé, votre conclusion, un sujet qui vous semble intéressant à mettre à connaissance des auditeurs.
Non, je peux suivre quand même pour les auditeurs finir ça. Juste une mention, Dussopt, un ministre relaxé.
Olivier Dussopt.
Donc les gens, on parle...
Acquitté.
Relaxé. Relaxé. En correctionnel, c'est relaxé. En cour d'assises, c'est acquitté.
Mais est-ce qu'il peut revenir au gouvernement,
si jamais ? Non, mais en dehors de ça...
Tout est possible. Tout est possible.
Non, mais je tenais à le dire, parce qu'effectivement, sur la question de la présomption d'innocence, les choses sont difficiles. Il est évident que quand vous êtes mis en examen, c'est que vous avez des charges sérieuses contre vous. Et que donc, tant que vous n'êtes pas condamné, définitivement, mais ça prend 7 ans. Quand même, quand il y a une relaxe, il faut le dire, parce que beaucoup parlent de la mise en examen.
Ça passe inaperçu, les relaxes.
Les relaxes passent inaperçus, et c'est peut-être quand même un peu ça qui fait qu'il est en dehors du gouvernement. Donc, moi, je connais pas ce garçon, j'ai pas de lien avec lui, ni avec son parti, etc. Mais je tenais à le mentionner. Sur Trump, ou sur la politique internationale, ce qui se passe à Gaza est infiniment triste, et malheureusement, de pleurer les Israéliens et de pleurer l'attaque du 7 aujourd'hui ne suffit plus. Et ce que vous dites, ce que tu dis, Fernand, en disant tout le monde sera réuni, je crains quand même qu'il y ait beaucoup
de gens
dans l'hommage. Ouais, mais même dans l'hommage, je me demande s'il n'y a pas quand même une partie de la population musulmane ou avec des racines qui s'occupent pas de religion mais avec des racines arabes qui va dire la France n'a pas fait assez pour Gaza. Le président Macron a essayé de dire attention, on peut pas tuer tout le monde, parce que la question c'est quand même ça, on ne peut pas tuer tout le monde à Gaza quoi. Moi je comprends bien que ce qui a été fait est absolument abominable, mais il en reste pas moins que, et là je crains pour l'avenir vraiment que ça reste une tâche, que ce qui se passe reste une tâche, et reste une tâche pour ce que l'on appelle l'Occident, qui est une expression que je n'aime pas, parce que moi je trouve que l'Europe est très différente du Japon, que l'Europe est très différente des États-Unis, et donc la notion d'Occident, elle me semble un peu simpliste.
On est obligé de s'arrêter là, parce qu'il nous reste 20 secondes. Donc
j'espère que Trump, comme il a dit,
Il réunira au moins Poutine et Zelensky. Il a dit que les deux étaient bien et que lui pouvait leur faire faire la paix.
On verra. Oui, parce que ça fait peut-être partie de l'agenda de 2024. En tout cas, merci infiniment Fernand Tavares qui avait suivi aussi toute la semaine dernière tous ces événements. Merci à Hervé Causse retour.
Bonne chance au gouvernant de la République, peux m'inquiéter et être critique.
Le succès de la France.
En politique intérieure et en politique extérieure.
Merci à tous, 19h, le journal, bonsoir. Demain, 18h10, 19h, le 18-19.